Studio Tamani, voici nos informations en français.
À vous qui nous suivez en ce moment, il est 8 heures dans ce studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, plus de 6000 Maliens effectueront du 7 juin au 12 juillet prochain le pèlerinage à la Mecque. Mais pour effectuer le Hajj 2022, le pèlerin malien doit débourser 4 675 000 francs CFA pour la filière privée et 3 900 000 francs CFA pour la filière gouvernementale. Le cercle de Yélémané souffre d'un manque d'enseignants. Les autorités scolaires et les parents d'élèves tirent la sonnette d'alarme sur la situation en cette période préparative des examens de fin d'année. Les Aigles du Mali joueront leur premier match des éliminatoires de la CAN 2022 le samedi prochain au stade du 26 mars. Pour l'occasion, les entraînements débuteront avec tous les joueurs ce lundi à Bamako. À la présentation de ce journal, Adama Madou Haïdara, à la mise en onde, nous dirons. Hajj 2022, le prix pour effectuer le pèlerinage de cette année à la Mecque a connu une augmentation. Les fidèles musulmans devront payer plus de 4 600 000 francs CFA pour la filière privée et près de 4 millions pour la filière gouvernementale pour aller à la Mecque. Selon les responsables de la maison du Hajj, cette augmentation est due à la hausse des charges en Arabie Saoudite et l'augmentation du prix du billet d'avion qui passe de 900 000 à 1 300 000 francs CFA. Pour les filières privées, cette augmentation est certes drastique, mais il reste encore de nombreux pèlerins engagés à accomplir le cinquième pilier de l'islam du 7 juin au 12 juillet prochain. Suivons ce reportage de Kouandjara.
Selon le directeur général de la maison du Hajj, les raisons de cette augmentation sont multiples et diverses. Pour Abdoul Fattah Cissé, les prix du transport et des hôtels ont presque triplé.
Ce qui explique l'augmentation de ce montant, c'est que les Saoudiens ils ont augmenté le prix des prestations Mina, Arafat, Muzdalifa. Ensuite, il y a aussi la TVA pour l'hébergement, la restauration et les transports terrestres en Arabie Saoudite qui était 5%. Maintenant, c'est augmenté à 15%.
Du côté des filières privées, cette augmentation de prix et la réduction du quota de 50% des pèlerins bouleversent les prévisions attendues cette année. Pour Amadou Maïga, directeur de l'agence de voyage Clédou, les pèlerins doivent faire des sacrifices pour pouvoir aller à la Mecque cette année. Monsieur Maïga estime que dans l'ensemble, ce nouveau changement est compris par les pèlerins maliens.
C'est vrai, c'est dur, mais rien n'est de trop pour Dieu. Nous sommes croyants. Tout ce qui nous arrive, surtout que nous sommes sur le chemin de Dieu, il faut le prendre ainsi. Je suis heureux de vous annoncer que vraiment, dans l'ensemble, il y a une bonne compréhension. D'autres ont hésité, pas forcément pour des raisons financières, pour d'autres considérations, mais il y a beaucoup qui sont en train de compléter aujourd'hui.
Il faut également noter que le nombre de pèlerins maliens est réduit de 13 000 personnes à un peu plus de 6 000 cette année. La filière gouvernementale aura dans ce quota 700 pèlerins et le reste est réparti entre les 373 agences regroupées au sein de 19 groupements.
À toutes ces informations, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La situation sécuritaire est stable dans les 6 communes des zones d'intervention de la brigade territoriale de Toumia. Cette déclaration est du commandant de la gendarmerie de la localité. Selon lui, les différents corps sont à pied d'œuvre pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et de leur côté, certains habitants confirment que la présence des forces de défense et de sécurité les rassure, mais toujours inquiets, ils demandent aux autorités de redoubler de vigilance. De Toumia, retrouvons notre envoyé spécial, Ousmane Alibouli.
À Toumia, les calmes règnent. Malgré quelques menaces, nous ont affirmé les responsables de la brigade territoriale de la localité. Selon les chefs de la brigade d'intervention de la ville, toutes les dispositions sont prises pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Lieutenant Katari Ould Mohamed Cheikh, commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Toumia.
La situation sécuritaire de Toumia, pour le moment, c'est calme. Certaines localités, il y a un peu de menaces. Côté sud, tout va bien entre les forces qui font des patrouilles sur les frontières entre Itominia et la frontière burkinabé.
Cette présence visible des forces armées maliennes rassure les populations. Toutefois, certains habitants exhortent les femmes à rester vigilants.
Les forces de l'ordre sont là.
Bon, aujourd'hui quand même ça va. Sinon, auparavant, on n'était pas tranquille.
Les militaires, ils viennent chez nous. Deux jours, trois jours, ils repartent. Si ils partent, c'est la puscuse qui est là.
De leur côté, les autorités communales de Itominia encouragent les militaires à faire davantage de patrouilles. Ils estiment que cette récurrence de patrouilles rassurera plus les habitants. Est-ce Keïta, premier adjoint au maire de Toumenia.
Nous sentons que nos populations ont encore peur. Il y a un camp qui est sur place actuellement à Toumenia en ville. Petit à petit, l'espoir est en train de revenir au niveau de nos populations.
Rappelons que Toumenia est limité à l'est par les cercles de Bankas, région de Mopti, au sud par les cercles de Yoroso, dans la région de Koutiala et le Burkina Faso. Et dans toutes ces zones, la présence des présumés groupes djihadistes est signalée. De Toumenia, Ousmane Nyalibouli pour Studio Tamani.
Le cercle de Yélémané souffre d'un manque d'enseignants et selon le maire de la commune rurale de Guindémé-Yélémané, ce manque d'enseignants est dû à leur mutation sans remplacement. Les autorités scolaires du cercle disent ne pas être au courant de ces mutations. Plus de détails ici avec notre envoyé spécial à Yélémané, Assitou Kanté.
Pour Soumaïla Kandé-Djakité, maire de la commune rurale de Guidimé-Yélimané, il y a 14 écoles dans la commune. Dans certaines écoles, il n'y a que 2 enseignants pour 6 classes, regrette le maire. Il s'est dit inquiet quant au bon déroulement des examens de fin d'année.
La mutation, c'est un droit. Les gens partent, ils ne sont pas remplacés. Le cercle est sérieusement menacé. Les gens sont à Kayabamako maintenant, dans les classes maintenant, où il y a 5 à 6 enseignants. Le temps n'a pas le courage de les faire évacuer dans les coins où vraiment il y a un budget crucial. Quand il va dans les secondes maintenant, les matières principales en anglais, en maths, physique, chimie, un élève qui fait le DEF, fait toute l'année ses matières, il n'a pas vu son enseignant. L'inquiétude aujourd'hui, dans le cercle de l'humanité aujourd'hui, l'enseignement aujourd'hui est à terre.
Du côté des responsables du centre d'animation pédagogique de Yélémané, ces mutations ont été une surprise pour eux. Ils affirment qu'ils ne sont pas favorables à la situation. Bakary Dambélé est le directeur du centre d'animation pédagogique de Yélémané.
En 2020, malgré mes cris, il y a 40 enseignants qui m'ont quitté. Et c'est des demandes qui ne sont même pas parvenues par le CAP. Moi, je n'ai pas signé ces demandes-là. Les maires ne les ont pas signées. Et de Bamako, je crois qu'ils sont parvenus à obtenir les mutations.
Les autorités communales de Guidimé-Yélimané demandent au gouvernement de faire respecter les textes sur la mutation. Notons que cette situation intervient à moins de 2 mois des examens de fin d'année. De Yélimané, Assitou Kanté pour Studio Tamani.
En cette période de chaleur, les populations de la commune de Menaka et environ vivent avec la soif. L'eau est devenue l'une des denrées les plus chères. La barrique d'eau est vendue à 1 000 francs CFA et 1 500 francs aux alentours de la ville. Cette situation est due à la vétusté des installations de l'adduction d'eau de la ville qui peinent de plus en plus à satisfaire la demande. Pour plus de précisions, notre correspondance est entretenue avec le coordinateur de l'adduction d'eau. Suivons son reportage.
Datant depuis de 30 ans, les installations de l'adduction d'eau de Menaka ne répondent plus aux réalités du moment. La population a doublé et l'arrivée des déplacés du cercle d'Inekar et les autres localités emprunte à l'insécurité joueront sur la balance. Il y a quelques années, on a pourtant évoqué un projet pour réhabiliter les installations. Pour le moment, rien n'a été fait. Mohamed Abouzedi, chef de centre de la SOMAGEP à Menaka.
Depuis 2017, on parle d'un projet de l'AFD qui doit réhabiliter et renforcer la capacité de production de l'AFD de Menaka. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas eu de travaux.
Selon Mohamed Abouzedi, plusieurs démarches ont été menées en collaboration avec les autorités municipales auprès des ONG, mais il n'y a pas eu de résultats probants, d'où cet appel à toutes les volontés.
Nous demandons à toute personne de bonne volonté qui peuvent nous aider au niveau des partenaires, au niveau des ONG. On pense bien que même si une ONG nous donne un forage par an et qu'un autre nous donne un autre forage, ça va nous permettre au moins d'améliorer les choses au fur et à mesure.
Une habitante de la ville affirme qu'il y a 5 jours, elle n'a pas de l'eau. Elle a été obligée d'en payer. Il faut préciser que les coupures d'électricité que vit la ville ces derniers temps compliquent également les problèmes. Mohamed Ag Issafetan, Menaka, Studio Tamani.
Les travaux de la 22e édition du Forum de Bamako ont pris fin ce week-end à Bamako. L'événement était placé sous le thème « Femmes, paix, sécurité et développement en Afrique, notre avenir dans la marche du monde ». Un sujet qui a largement été débattu par des participants qui sont venus de divers continents d'Afrique et d'Europe. La majeure partie des intervenantes souhaite le renforcement du rôle de la femme dans la quête de la paix au Mali. Moussa Mali Sissoko était à la rencontre.
Pour la présidente de la CAFO du Cercle de Nyonon, les femmes de la localité souffrent le martyre à cause de l'insécurité et du dictat des terroristes. Koura Bagaya souhaite une franche collaboration avec l'armée malienne pour asseoir une paix durable, condition indispensable au développement, dit-elle.
Que sans sécurité, tu ne peux pas aller au champ, tu ne peux pas aller vendre tes produits maraîchers. Tu es obligé de rester dans la maison alors que le tout pèse sur le poids de la femme. La santé, l'éducation, l'habillement. Et sans sécurité, toi, tu ne peux pas sortir.
Mariam Cham, consultante en médiation socio-culturelle en France, déclare que la participation de la femme aux résolutions des conflits est une nécessité. Car selon la malienne de la diaspora, le pays est en proie à l'insécurité et à l'instabilité politique.
Il a été convenu de mettre aussi les femmes à leur juste place, qui sont les transformatrices de la société et elles sont les premières actrices de la paix. Donc la réconciliation ne peut pas se faire sans elles. Mais il faut l'amplifier pour que le message soit entendu sur toute l'étendue du territoire.
Kumba Traoré est la secrétaire générale de la Fondation du Forum de Bamako. Elle rappelle que le choix de la thématique n'est pas fortuit. Pour Kumba Traoré, le thème traduit la volonté du Forum de placer la femme au cœur de la recherche des solutions à la crise qui assaille le Mali.
C'est une problématique qui n'interpelle pas que les femmes, qui interpelle l'ensemble de la société. Comment pouvez-vous penser développement, paix, stabilité, lorsque cette partie de la population reste en marge de la recherche des solutions? C'est tout le sens et c'est tout l'enjeu de cette rencontre, la 22e édition du Forum de Bamako.
Rappelons que des questions d'ordre économique, politique et social et relatives au leadership africain ont aussi été abordées par des experts.
En sport, les Aigles du Mali joueront leur premier match des éliminatoires contre le Congo le samedi prochain au stade du 26 mars à Bamako. Pour l'occasion, les préparatifs sont en cours pour gagner ce match à domicile. Interrogé sur la question, Kassoum Koulibaly, premier vice-président de la FEMAFOOT, affirme que malgré un léger retard de deux joueurs, l'espoir est de mise. Il est joint au téléphone par Issa Omar Togola.
Les préparatifs vont bon train, ça continue. Presque la totalité des joueurs sont à Bamako. Normalement, il doit rentrer à l'internat à partir de lundi, demain matin. Il y a le retard de Falaï qui doit jouer son match de barrage avec Saint-Etienne. Il y a aussi Massadio Aïdra qui a été blessé au dernier match de son équipe. C'est les deux pour le moment qui seront en retard. Les entraînements commencent lundi, mardi, mercredi. Les trois jours, nous espérons faire ça sur notre terrain, c'est-à-dire le 26 mars. Les préparatifs qu'ils sont en train de faire, ça nous permet de gagner contre le Congo. Les joueurs sont pressés parce qu'ils disent que vraiment ils ont loupé le barrage et pour se dédommager envers ce public-là qui est sorti massivement, ils vont mouiller le maillot pour gagner. Donc on demande au public de sortir massivement, d'être présent et de soutenir les Aigles.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Octroyer des actes de naissance à 1000 enfants de 3 à 15 ans dans les 6 prochains mois, c'est tel est l'objectif d'une rencontre qui s'est déroulée le samedi 28 mai 2022 à l'hôtel de ville de Nioro du Sahel. Cette activité financée par le projet Diamond Ways est exécutée par l'ONG Civipol. Elle a réuni les chargés de l'état civil, les chefs de quartier et de village de la commune urbaine de Nioro. Une rencontre sur la hausse des prix des denrées de première nécessité a eu lieu ce samedi à Gao. Elle a réuni le bureau de la Chambre de commerce régionale, l'Association des consommateurs maliens et la société civile. Selon les organisateurs, cette rencontre a pour objectif de discuter et trouver une solution pour baisser les prix. La ville de Koro n'a plus de courant depuis le jeudi passé. La pénurie de carburant est à l'origine de la coupure selon les responsables de l'EDM de Koro. Cette situation est très critiquée par les populations. Elle demande aux autorités de s'impliquer davantage afin de trouver une solution définitive à ce problème. Et il est 8h passées de 13 minutes. C'est avec ces informations des régions que se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bon début de semaine à tous. À Bamako, certaines berges du fleuve Niger sont devenues des dépôts d'ordures. C'est sur ces bordures du fleuve que beaucoup de débouilleurs déchargent leurs engins bourrés d'immondices et cela de façon flagrante et regrette des riverains. Une situation que déplorent des exploitants du fleuve. Selon eux, leurs activités sont au ralenti à cause de ces phénomènes qui dégradent de jour en jour le fleuve, ajoute-t-il. Le magazine de l'environnement, une réalisation de Fatih Attara.
Le magazine parlant de l'environnement. Des tas de paille mêlés à des excréments, des boîtes de conserve, des ballots de vêtements usés, des milliers de sachets plastiques de toutes les couleurs et des vieilles ustensiles de cuisine. Voilà les décors que présentent les berges du fleuve Niger au quartier de Kalabankoro, dans le cercle de Kati. Amadou et son équipe sont des conducteurs de bacs et guides touristiques. Ils se disent dépités par la présence de tous ces déchets sur les bordures du fleuve.
Nous sommes écœurés de voir cette situation. On ne parvient plus à travailler. Ceux qui viennent pour la balade au bord du fleuve, qui nous achetaient nos marchandises, ne viennent plus.
Il y a beaucoup de touristes qui déplorent la saleté aux abords du fleuve. Mais que faire? Si on proteste contre le fait que les ordures sont déposées ici, on nous répond que le fleuve ne nous appartient pas.
Nos embarcations sont si souvent en panne, car les sachets plastiques enrobent les pièces de leur moteur. Quand il pleut, une odeur irrespirable et suffocante nous envahit.
À
une centaine de mètres de là, nous retrouvons un pêcheur bozo, visage crispé, ruisselant de sueur, vêtu d'une chemise verte foncée et d'un pantalon marron. Il vient d'amarrer son embarcation. Il n'y a plus de poissons dans ces fleuves, regrette Mohamed Tienta.
Autrefois, une seule personne pouvait pêcher jusqu'à 20 kilos de poissons. Mais maintenant, nous revenons bredouille des fois. C'est vraiment les familles nanties elles-mêmes qui viennent déverser leurs ordures. On est sans défense. C'est pourquoi on nous fait subir tout ça. De nos jours, on a du mal à pêcher même un petit poisson pour nourrir nos familles. Le commerce, n'en parlons pas.
L'agence du bassin du Niger, ABFN, confirme le phénomène. Cependant, des dispositions sont en cours pour sauvegarder le fleuve, indique Amadou Diko, chef du bureau formation, communication et documentation de l'ABFN.
Donc c'est un problème réel et ce qui détériore la qualité de l'eau et qui perturbe vraiment tout ce qui est animaux aquatiques dans le fleuve. Donc nous, ayant la mission de sauvegarde du fleuve Niger, nous menons des actions dans ce sens-là. D'abord, nous avons des programmes de nettoyage du fleuve Niger en enlevant les déchets solides. Nous avons un programme de focardage du fleuve Niger pour enlever les plantes aquatiques et tout ce qui peut contribuer à détruire la qualité de l'eau. Et cette détérioration qui impacte sur les produits halieutiques, les poissons, tout ce qui est animaux aquatiques dans le fleuve.
La pollution du fleuve aurait des conséquences inestimables sur l'existence des hommes dans quelques années, si rien n'est fait, explique l'environnementaliste Oumou Keita.
Les retombées sont directes, c'est d'ordre sanitaire d'abord et aussi d'ordre écologique. Déjà, il faut savoir que c'est le même eau qu'on boit directement dans nos robinets. Parce que ces ordures, autrement, vont essayer de modifier l'écosystème de l'eau. Ça joue sur la santé de l'homme et sur la vie aquatique.
Selon elle, les autorités maliennes doivent revoir leur politique de protection de l'environnement.
Là, on a eu beaucoup d'exemples qui ont marché. Par exemple, que prendre Kagame, qui a vraiment fait de telle sorte que son pays est le numéro 1 en Afrique et dans le monde entier. Là où les sachets sont interdits, là où la salubrité est vraiment quelque chose d'ordre politique. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une volonté politique, mais je pense que la meilleure des solutions, c'est la sensibilisation et le réveil de conscience. C'est l'éducation environnementale.
Pour finir, rappelons que chaque jour, c'est plus de 18 000 mètres cubes de déchets liquides qui sont déversés dans les fleuves, selon les autorités en charge de l'assainissement. Ainsi se referme votre numéro du jour de Parlons de l'environnement. Il a été présenté par Fatia Tara. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.